inconvénient.
Mais tu les avais dans la convocation.
Je ne suis pas le contraire, simplement c'était beaucoup pour pouvoir les lire, en tout cas ce que j'ai envie de dire, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un système de gouvernance qui, quelque part, me dérange. Alors, je pose la question, je peux y répondre, parce que je peux me tromper, et je me fais parfaitement de me tromper. Mais qu'est-ce qui va rester dans le pouvoir du maire, de municipalité, par rapport à ce type de montage, de système? Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que, quelque part, ça me dérange de voir qu'on se retrouve pied avec un organisme et avec des bailleurs, on va dire, sociaux, qui vont faire la pluie et le temps et faire fonctionner tout ça comme ils voudront. L'autre élément, c'est que si j'ai bien compris, j'étais à la réunion de l'urbanisme, c'est une commune, une voie.
C'est pas exactement
comme ça. Je pose une question, je dis que j'ai bien compris. Et est-ce que donc, si véritablement, si c'est différent, quelle peut être, je dirais, la position d'une commune comme Montferrier-sur-Lèze dans l'ensemble, je dirais, des communes qui vont de toute façon imposer à tous les coups leur vision sur la manière de faire fonctionner cela. La dernière question, c'est également qu'est-ce qui se passe le jour où ces propriétaires de murs décident pour des raisons X, Y de vendre, de partir, et en cas de succession, comment ça se passe aussi?
C'est ça, tout ça c'est...
Non, mais je préfère que ce soit parce que ceux qui votent ne sont pas tous dans la commission
d'urbanisme.
Comme ça m'a été fait remarquer par des élus...
Non, mais moi je suis allé chercher l'information en dehors de la commission d'urbanisme.
J'aimerais que ce soit dit. Moi aussi je vais le chercher, je vais te cacher, mais j'aimerais que ce soit dit.
Je t'avais déjà répondu à ça, mais effectivement, je n'ai pas répondu à tout le monde. Bon, sur le dernier point, lorsque le bien est remis en vente, il est remis à un prix très très voisin du prix où il a été acheté, et il est remis dans les mêmes conditions, c'est-à-dire conditions de ressources, conditions de famille, c'est-à-dire que le bien reste dans le système du BRS en permanence. Que ce soit pour une vente ou même une succession. Il est possible de transmettre par succession si la personne qui succède a les mêmes droits en termes de revenus que celle qui a été propriétaire des murs.
Et si ce n'est pas le cas?
Comment? Si ce n'est pas le cas, le bien revient à l'OFS.
L'OFS, voilà. Perdu.
Non, pas perdu.
Pourquoi
perdu?
Pas perdu du tout.
Il n'est pas perdu. C'est un nouveau propriétaire qui peut accéder.
C'est propriétaire. La famille.
Quoi, non?
Il n'y a pas de succession, Michel. S'il n'y a pas de succession, toi tu dis la famille est biaisée. Non, s'il y a la famille, elle perçoit le bien.
Absolument.
S'il y a succession, condition de ressources.
Ah non, mais attends, Michel. Si celui qui succède n'a pas les conditions de ressources, il y a vente.
Hein? Non, mais s'il a des conditions de ressources très élevées.
Non, là, justement, donc il ne peut pas prétendre à habiter dans le BRS.
Donc ça va être
non, mais l'OFS. Non, l'OFS va lui racheter le bien hein, pour le transmettre à quelqu'un d'autre sur conditions de ressources.
Elle rachète. Puisque le bien ne lui appartient pas, ce qui lui appartient, c'est que le terrain. Donc elle est obligée de le racheter. C'est moi, ce que je trouve quand même... Alors, il y a, dans la gouvernance, effectivement, il y a un peu des soucis.
Oui.
Dans la mesure où, si tu regardes les membres du conseil d'administration,
oui.
C'est la ville qui tient la métropole qui est majoritaire.
Alors, pas seulement.
Mais toutes les... Ça, c'est le conseil d'administration.
Oui.
Mais toutes les communes participent à l'Assemblée générale. Et c'est là où je trouve dommage que nous... Nous ayons décidé que ce soit quelqu'un, j'ai rien contre Marie-Hélène, mais je trouve dommage que nous ayons décidé que ce soit quelqu'un, que tu aies décidé que ce soit quelqu'un qui soit membre du CCAS et non pas membre de la commission d'urbanisme, parce que c'est un problème essentiellement d'urbanisme. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est pas un représentant de la commission d'urbanisme, je ne parle pas pour moi, c'est gentil, vous le saurez. Hein.
Sur la gouvernance.
Ça me semble beaucoup plus logique, moi.
Alors, sur la maîtrise...
Il va falloir porter la voix en Assemblée générale, hein, puisque le conseil d'administration, lui, il est majoritairement tenu par les gens qui tiennent la Montpellier et la métropole. Donc, il faut qu'à l'Assemblée générale, les gens des communes portent la voix. Hein.
Le conseil d'administration gère l'OFS. Le conseil d'administration n'intervient pas sur la construction. Hein, l'OFS va acheter le terrain, le faire le construire par un bailleur, un organisme qui peut être et qui est choisi par la commune. Ce n'est pas l'OFS forcément qui choisit le constructeur. Hein. Après, il y a le conseil d'administration, mais il faut penser aussi au conseil d'attribution, c'est-à-dire que qui va habiter dans ce BRS. Hein. Et là, la commune, sur 6 membres, la commune a 2 membres.
2 voix plus le promoteur.
2 voix plus le promoteur qui a été choisi par la commune. Et le maire a double voix. Donc nous avons une grosse
influence sur l'attribution du logement.
Ce qui n'est pas forcément le cas dans les logements sociaux, en tout cas pas dans les PLAI. Hein.
Tout à fait.
Alors ce que je trouve intéressant aussi dans l'OFS, c'est que si on a envie de mettre en place une opération de ce type, mais qu'on considère que l'achat de terrain, si l'OFS veut. Enfin, on peut. Le maire peut très bien décider d'acheter le terrain, enfin la commune peut très bien décider d'acheter le terrain et de le revendre à l'OFS.
Oui.
Ce qui fait que ça ne fait pas forcément. Ça n'impacte pas forcément les finances de la commune.
Absolument. Et le maire reste quand même s'il a vendu le terrain à l'OFS, voilà. Il reste quand même maître. De l'opération. Hein.
Et c'est le maire qui signe le permis de construire.
Exactement. Et c'est lui qui choisit l'opérateur.
Et c'est un promoteur social ?
Oui.
Oui.
C'est des...
Ah non, il n'y a pas que des liens, il y en a plusieurs, hein, mais il y a entre autres.
C'est une question. J'ai vu un pays.
Donc il y a peu de risques qu'il y ait des promoteurs qui se portent candidats. On connaît aujourd'hui le coût de revient des logements sociaux. Et donc si le prix de vente est un prix préférentiel, il y a peu de risques qu'il y ait beaucoup d'amateurs, enfin de promoteurs amateurs pour ce genre de promotion. Actuellement, les choses
sont... Alors, j'ai regardé, il doit y avoir une cinquantaine d'OFS en France. Et d'après ce que je comprends, toutes les communes dans lesquelles il y a des OFS sont ravies de cette chose-là.
Oui, je suis d'accord, mais c'est qu'aujourd'hui, le contexte est est très compliqué. Le coût de la construction, en particulier le coût des logements sociaux, en raison des normes extrêmement strictes qu'ils demandent, fait qu'il n'y a plus de promoteurs, en fait, aujourd'hui, qui se portent candidats.
Donc tu veux dire qu'il n'y a plus de logements sociaux.
Mais ce n'est pas automatiquement des logements sociaux.
Non, en ce moment, c'est plus compliqué. Mais c'est peut-être très conjoncturel, je l'espère.
De tout intérêt.
Lié aussi à l'augmentation du prix des matériaux, etc. Mais il y a peu de risques, en fait, qu'il y ait des promoteurs qui se portent candidats.
Mais on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de faire du logement social. C'est du bail social. C'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on ne construit pas des HLM, là.
Exactement.
Le propriétaire, celui qui veut bénéficier de cette opération, construit la maison qu'il désire construire. Il en est propriétaire. Ça passe pas forcément par un office d'HLM.
Mais c'est le prix de vente n'est pas un prix préférentiel, en dessous du prix du marché ?
Ah, mais le prix de vente, si tu revends, mais tu peux très bien, quelqu'un peut très bien décider sur un terrain que détient l'OFS de construire sa maison. L'OFS ne vend pas forcément, n'a pas forcément la capacité de construire la maison.
C'est pas le but.
Il peut avoir un terrain avec des maisons construites parce qu'il l'a acheté comme ça. Il peut décider d'avoir des terrains où il construit des maisons, mais il peut décider d'avoir des terrains qui sont accessibles à la propriété et où la personne qui veut avoir ce terrain-là construit sa maison.
Oui, écoute,
c'est dans le cas de... C'est soumis à condition de ressources, ils vont pas construire un palace.
Écoute, moi, j'ai pas...
Ben, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe pas automatiquement par un office HLM.
Si j'ai bien compris, c'est long.
C'est
bien
le
l'OFS ou la mairie qui revend l'OFS qui achète le terrain. C'est simplement le terrain et ensuite celui qui va construire sa maison suivant ses conditions.
Ça fonctionne pour le logement individuel.
J'avais deux. Alors, effectivement.
C'est plus intéressant si c'est des collectifs, mais
très courant. C'est à la marge.
J'avais deux questions, trois à poser. Mais là, je vois que ça part fort. Nous avons discuté avec Jean-Pierre
la commission d'urbanisme le 18 octobre et le projet
Jean-Paul, on ne t'entend pas, je suis désolé.
Ouais, parle plus fort et...
Fixé, mais d'habitude, ça fonctionne. Je disais que nous en avions discuté avec le 18 octobre et le projet m'avait paru tout à fait intéressant pour la commune. Toutefois, bon, je me suis aussi renseigné, comme Michel et d'autres collègues, et quelques questions restent en suspens. La première, c'est pourquoi cette présentation si tardivement, puisque l'organisme foncier solidaire métropolitain a été adopté lors du Conseil de métropole le 28 septembre 2021. Soit 2 ans plus tôt, et les premiers programmes, après une activation des statuts en novembre et un agrément par l'État visé pour fin 2021-2022, devaient être lancés courant 2022. Alors, il y en a eu d'autres dans d'autres communes. Est-ce que cette expérience a été menée dans d'autres communes? Et si oui, qu'en savez-vous? Bon, ça, c'était la première question. Je termine. Il est indiqué réalisation de 400 logements en PRS à produire chaque année, dont une majorité à Montpellier, avec une montée en charge progressive. Comment et par qui seront choisies les communes prioritaires pour ce type de logement au sein de la métropole? Et la question, bien sûr, récurrente, c'est avons-nous une quelconque chance d'avoir ce type de logement, vu que le prix du terrain à Montferrier est quand même particulièrement élevé? Enfin, car même si la cotisation n'est pas élevée, 500 euros, hein, il ne faudrait pas verser, quand même, d'ailleurs sur combien d'années, tout le temps, hein, sans aucun espoir de bénéficier de ces logements. Enfin, dernière, comme Michel, vous désignez Mme Cabas, je n'ai rien comme contre Marie-Hélène, c'est pas ça, mais cette prérogative n'incombe-t-elle pas davantage à la jointe chargée du globalisme? Parce que, comme tu l'as dit, il faudra défendre ce dossier. Et on sait bien que la métropole, et notamment à Montpellier, c'est Montpellier qui domine.
Voilà. Bien sûr.
Donc ça veut dire que vous sous-entendez que Mme Cabas n'est pas capable de défendre les dossiers?
Non, parce que
c'est vraiment un truc typiquement d'urbanisme.
Pour ça, voilà, c'est tout.
Mais écoutez, on peut présenter quelqu'un d'autre du Marie-Hélène. Il n'y a aucun problème. On n'est pas. Marie-Hélène, pourquoi? Parce qu'elle était dans les logements sociaux et ça me paraissait logique qu'elle soit surtout dans les commissions d'attribution. Parce que c'est elle qui est au courant de tout ce qu'on a comme problématique au niveau de demande de logements sociaux. Donc c'est pour ça que nous avons pensé à Marie-Hélène Cabas. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se proposer pour faire partie de cette OFS, il n'y a aucun problème. Qui veut représenter la mairie, il n'y a aucun problème. Je suis ouverte. Qui veut se présenter?
Une histoire de personne.
Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. Donc qui veut se présenter, qui veut représenter la mairie à l'OFS? Sabine?
Non, je ne suis pas
là. Frédéric?
Non, mais je pense qu'il faut que ce soit déjà l'urbanisme si ça doit être changé.
Pas forcément. Michel, est-ce que tu veux être représentant de la commune?
Je ne pensais pas que tu me proposerais ça.
Mais on va faire le tour. Michel Boyer, tu fais partie de la commission urbanisme. Est-ce que tu veux être représentant de la commune?
Ce qui me dérange, c'est déjà la gouvernance de l'OFS. Bon, ça, c'est encore une autre question.
Donc ça veut dire que tu ne veux pas représenter la commune. Qui fait partie?
C'est pas que je ne veux pas représenter la commune, c'est que le système paraît un peu.
Donc tu ne veux pas représenter la commune? Puisque ça ne te convient, toi.
Tout à l'heure, la question a été posée sur les raisons, je les donne.
Qui fait partie de la commission urbanisme? Jean-Pierre? Michel?
Moi, je ne suis pas suffisamment
au courant des
décisions.
Bernard?
Non, Bernard, c'est comme ça.
Bernard.
C'est
pas toi?
Je bien, mais franchement, je laisse la place à qui veut.
Qui a d'autres
en
urbanisme?
Pourquoi on ne peut pas dans la commission urbanisme?
Jean-Paul et Michel.
Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre d'accord dans la commission urbanisme?
Non,
c'est
bien avec ça.
C'est parce que Jean-Pierre est qualifié. Et le plus qualifié, c'est toi qui es au contact d'abord de la commission au niveau de la métropole, etc.
Non, mais on.
C'est mon
avis.
Ça ne peut pas être un binôme, un titulaire.
Non, ça ne peut pas être un binôme.
Un suppléant.
Donc, on va proposer M. Depont comme correspondant, enfin représentant de la commune au niveau de l'EFS. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc tu es élu à l'OFS et tu représenteras la commune, et j'espère que tu nous permettras d'avoir des logements BRS dans la commune.
Bah, il paraît que
tu te battras pour avoir des logements BRS dans la commune.
Après, je voudrais répondre à... C'est pas la métropole qui choisit les communes pour construire le BRS, c'est la commune qui appelle à l'OFS pour construire des BRS. C'est un petit peu différent. Hein. Après, je sais qu'il y a pas mal de, il y a plusieurs communes qui dans la métropole, mais je me suis pas renseigné quelles communes sont adhérentes, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Et je crois que... Pourquoi on a tardé?
Parce qu'on a eu la présentation très tardivement de la métropole, au mois de juin. Le représentant de l'OFS est venu nous voir et nous a parlé de l'OFS.
D'abord, et puis la modification d'un PLU, ça commence... Il y a quand même une enquête, un commissaire enquêteur. Donc, en général, il préfère, puisque c'est la compétence de la métropole, il préfère qu'on ait plusieurs sujets à la fois, en fait.
Donc du coup, on va peut-être aussi voter l'adhésion à l'OFS. Donc qui est contre? Qui s'abstient?
Je m'abstiens aussi.
Deux abstentions.
Ce sera le plus de pouvoir éventuel.
Plus noyer, plus 2. OK. Et donc, adopté à la majorité. Troisième délibération concerne la subvention exceptionnelle à l'association Société de Chasse. Je vais laisser Mme Lagrifol s'exprimer sur cette délibération.
Alors, la Société de Chasse est appelée de plus en plus souvent pour intervenir en matière donc, de prolifération de sangliers qui, avant, se limitaient aux zones boisées, aux zones forestières, et puis maintenant, ils rentrent de plus en plus en zone urbanisée. Et donc, ils font bien sûr des battues régulièrement au titre de leur activité de chasse habituelle, mais aussi à la demande de particuliers ou d'entreprise ou autre, parce que effectivement il y a des sangliers qui viennent dans leur secteur. Pour la chasse aux sangliers, ils utilisent des chiens, donc une meute de chiens, qui pour la société de chasse est de 12 chiens. Or, les sangliers sont devenus de plus en plus agressif vis-à-vis donc de ces chiens. Alors qu'avant, c'était les sangliers qui partaient quand le sanglier arrivait, quand le chien arrivait, maintenant les sangliers attaquent les chiens. Donc actuellement, sur les 12 chiens de la meute, il y en a 8 qui sont en convalescence, dont un, il me semble, avec des blessures très graves. Il paraît qu'il a eu 1000 points de suture ou quelque chose comme ça, c'est pour vous dire. Donc, ce qui veut dire que les frais de vétérinaire sont de plus en plus importants. Effectivement, l'année passée, il y avait eu 60 battues pour donc, la saison 2022-2023. Cette année, sur les 2 mois et demi donc, du 15 août au 31 octobre, il y a eu 11 battues, et sur les 11 battues, les frais vétérinaires ont doublé. C'est-à-dire qu'ils étaient de 2100 l'année passée, et là, ils sont 2100 pour juste les 2 mois et demi. Donc, ils vont même être plus que doublés. Donc, la société de chasse, pour continuer à être performante, elle a besoin qu'on l'aide au niveau d'une subvention pour... participer à ces frais vétérinaires. Donc, dans le groupe de travail qui s'occupe de l'attribution de subventions, nous avons effectivement décidé de leur accorder cette subvention de 1 500 euros pour qu'ils puissent effectivement faire face à ces frais vétérinaires. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, l'année passée, il y a eu, au cours des 60 battues, il y a eu donc à peu près 200 sangliers de prélevés, comme ils disent, et dont 35 femelles. 35 femelles, si elles avaient été vivantes, comme elles font à minima une portée par an, une portée avec 6 marcassins, ça aurait donc fait une population de 210 sangliers de plus. Donc il est quand même obligatoire de continuer à faire ces battues parce que sinon ben, on ne s'en sort pas. Et avec l'espoir que si la population des sangliers diminue, ils resteront plutôt en zone forestière plutôt que de venir en zone urbanisée.
Donc, je voudrais rajouter quand même que c'est la société de chasse Saint-Clément-Montferrier et qu'ils ont demandé aussi une subvention à ça à Saint-Clément qui leur a été accordée. Hein.
Tout à fait.
Voilà, de même montant, je crois. Hein.
Oui.
D'ailleurs, samedi soir, après avoir fait un petit tour place des Grèves, j'ai rencontré trois sangliers au pioche de Bayos en rentrant chez moi. Il y en a un.
Et même le bon jour, à 18h, à côté de Jean Frey. Hein. Ils traversaient tranquillement.
Je pense que les exemples, je peux dire quelque chose. J'ai pris mon permis de chasseur, je sais, c'est comme ça. Mais Bernard, tu me apporteras une contribution à ce que je dis à Zabri. C'est qu'au niveau des sangliers, je pense qu'on en voit tous. D'ailleurs, j'avais fait référence, je ne sais plus, lors de la meilleure urbanisme, que moi j'en voyais tout le temps, en route de bande, à hauteur de, comment il s'appelle, le capot. Alors là, ça passe, tiens, on arrive. Sur la route derrière également de Montferrier-Brad, alors là, je peux te dire que c'est extrêmement dangereux. À partir du moment où on commence à passer entre chez et lui, et alors en pleine nuit, c'est-à-dire autour de 11h, 11h30, je vous conseille vivement d'éviter ce truc. C'est hyper dangereux. Bon, voilà. Donc, quand on a dit ça, il n'y a rien qui est dit parce que malheureusement, c'était, je dirais, pratiquement prévisible. C'est une certitude. À partir du moment où il y a une interdiction de la chasse sur un certain nombre de territoires qui dépendent de Montpellier, eh bien, effectivement, on savait qu'il y allait avoir ce type d'événement qui allait se produire. Donc, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que d'abord, je suis d'accord, effectivement, pour qu'ils soient aidés parce que. Ces pauvres chiens se font dépecer. Hein. Il faut savoir qu'un sanglier, c'est vraiment une bête sauvage. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne les chasse pas. Parce que c'est trop dangereux. On tire à balle. Enfin, c'est une autre chasse que les petits oiseaux. Hein. Voilà. Mais la difficulté, c'est qu'on va aller plutôt vers une accentuation, une accélération de ce type d'événement. J'ai été assureur pendant un petit moment, vous le savez tous, toutes, presque. Je peux vous dire que jusqu'au moment où je suis parti, la courbe d'augmentation de des accidents en matière automobile, moto, il ne faut pas les oublier, sur les sangliers, la courbe elle est comme ça. Hein. Ça grimpe à vitesse grand B. Donc à un moment, il va y avoir forcément à faire quelque chose pour essayer, alors je ne sais pas comment dire, hein, d'éradiquer le phénomène, de le réduire. Je ne sais pas comment ça va vraiment pouvoir se faire.
Mais
moi, ce que j'attends, c'est qu'au niveau. Enfin, juste, je finis. C'est que puisqu'il va y avoir une commission ou des personnes qui vont être amenées à travailler sur les subventions, je crains que là, il y ait une demande de plus en plus pressante, en tout cas sur les 3, 4, 5 années à venir, surtout si rien ne change au niveau de législation, au niveau de la manière de travailler sur ce type de dossier, eh bien on va se retrouver dans une situation où ça va grimper comme ça les demandes.
Oui.
Parce que les frais vétérinaires, ils ne sont pas remboursés par la Sécu.
Mais moi aussi, je suis favorable.
Voilà.
Et
donc,
de
jusqu'où on va aller, comment on va faire et comment ça va être pris en compte par ceux qui vont être amenés à travailler sur le niveau de subvention à accorder aux uns et aux autres. Et évidemment que je ne m'exprime pas en disant que je suis contre ce qui a été demandé aujourd'hui, parce que je pense que c'est une demande que je ressens comme telle, comme étant une demande d'urgence. C'est bien ce que j'ai compris.
Le problème, c'est que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui dit qu'en fait la population globale de sangliers n'a pas changé au niveau de l'Hexagone, mais par contre, en fait, ils se regroupent massivement autour des villes. Donc il y en a à peu près, on arrive à contenir en fait la reproduction au niveau national, mais en fait, ils viennent tous vers les villes. Et c'est pour ça qu'en fait, on a de plus en plus de problèmes. Donc c'est vrai qu'il faut maintenir ces battues, parce que le fait d'avoir des battues à proximité des villes, ils prennent peur et ils s'éloignent. Donc en fait, il faut maintenir les battues absolument.
On parle des sangliers, mais on ne parle pas des autres aussi. Hein.
ici, on n'est pas une zone où il y a des cerfs, des choses comme ça. Hein, mais quand tu vas dans d'autres régions, ils ont cette problématique-là. Hein, il y a des problématiques également sur tout ce qui est biche, etc. Hein, je sais, hein, il y a l'image.
Il y a, voilà. Aussi, il y a aussi une population qui nourrit les sangliers.
Oui, c'est ce que tu dis.
C'est très problématique parce que tous les gens qui vont continuer à nourrir les sangliers, on va avoir du mal, on aura beau faire des battues et des battues. Les sangliers, ils savent très bien où ils doivent aller, hein. Ils savent que là, ils sont nourris. Donc,
oui, mais ils ne perdent pas leur...
On a même vu des chasseurs nourrissant les sangliers. Hein.
Pardon ?
On a même vu des chasseurs nourrissant les sangliers. Je veux dire, ça
mais
c'est
pas.
Mais
toi, c'est
ça aussi.
C'est pas.
Ben, je sais pas. Moi, si tu veux, je sais pas si c'est vrai ce que tu dis là. On va rentrer dans une spirale où on va être obligé sans arrêt de donner des subventions parce qu'il faut tuer ces sangliers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose.
Michel,
moi, laisse-moi finir juste. Pourquoi il y a autant de sangliers? Pourquoi est-ce qu'il se rapproche des villes? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Est-ce que la commune peut avoir un moyen d'action là-dessus? À quel niveau de réflexion on doit situer notre réflexion pour avoir un poids sur ces choses-là? Moi, je pense que ça vaudrait le coup qu'on travaille plutôt à ça, plutôt que de se dire, ben, y a beaucoup de sangliers, donc on va donner du pognon aux... Alors, moi, j'ai rien contre, hein, mais est-ce que ça réglera le problème, quoi?
Je voulais intervenir... En votre rapport, bien entendu, puisqu'on a eu discussion déjà avec Mme Lagrifolle lors de la réunion
en novembre, on avait déjà posé des questions orales lors du conseil municipal du 16 février, en notant les plaintes de nombreux habitants, etc.
Outre les battues nécessaires, moi je pense que pour comprendre ce phénomène,
il serait quand même important d'inviter un chercheur, une personne qui est renseignée là-dessus, compétente en fait, pour nous aider à comprendre ce phénomène, mieux l'appréhender et indiquer aux habitants comment agir au mieux. Alors, on avait fait part de cela le 16 février, le mois de février. Il y a des personnes compétentes au CEF, là, il y a vraiment un spécialiste national et international. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je n'y attends rien à la chasse. Je ne chasse pas. Je pense que beaucoup d'entre vous, à part pêcher, on ne comprend pas ce phénomène, mais si on arrive à l'appréhender, à le connaître mieux, peut-être on pourra agir correctement au lieu de verser des subventions, et des subventions, des subventions, des subventions.
C'est ça, voilà.
Je pense qu'à un moment donné, vraiment... il faut essayer d'aller plus loin.
Monsieur Bord, c'est vraiment dommage que Mme Roquerolle ne soit pas là, parce que Mme Roquerolle est allée assister à une réunion justement organisée par le CEF.
J'ai mis sa place, hein.
Alors, tu peux parler de la réunion qui a été faite par le CEF.
Moi, je n'ai pas été à cette réunion, mais j'ai pris la suite. Et donc, le CNRS a mis en place une étude sur le territoire et ils ont installé des caméras qui filment les sangliers. Ils en ont mis un petit peu partout, il y en a deux actuellement sur mon fermier. Ils ont mis des cages, ils ont attrapé des sangliers, ils les ont tagués. Et c'est surtout pour arriver à savoir les déplacements et où ils se réalisent. Parce que ça va permettre effectivement de savoir où sont les concentrations et de pouvoir effectivement agir à ces endroits-là. Et donc on a une réunion là en janvier, une prochaine réunion, où d'ailleurs le président de la chasse, le Sacrement de Ferrier, sera là, où ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait, etc.
Mais en plus, il y a aussi un phénomène qu'il faut rappeler pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a de moins en moins de chasse.
Et oui, bien sûr.
Donc si tu veux, c'est des cours où on se
claque, comme se divise.
Donc ça rejoint ta question, Michel Morelli. Ça rejoint ta question.
Oui, oui, absolument.
Il y a tout un travail qui est effectué par des chercheurs au CEF et ils essayent de comprendre et d'arriver à contraindre ces populations d'une manière ou d'une autre, voir comment peut-être, comme dit Alain, un jour les stériliser.
Il y a beaucoup de...
Il y a des études de stérilisation des femelles, hein, dans ce cas-là, dans ma région, dans les Ardennes, hein.
Puis on entend des tas de choses. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de fausses informations qui passent. Du coup, on n'y comprend plus rien, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas... C'est compliqué, vraiment.
En tout cas, c'est là.
Oui, en tout cas, c'est là. Oui.
Michel, à une époque, il y en a qui nous laissaient à vous faire rire, qui nous laissaient les sangliers pour les attirer.
Oui.
Il n'y a pas de nom, ni quoi que ce soit. Mais donc, ça, c'était très mauvais.
Oui, puis on a eu dit qu'ils avaient croisé des sangliers avec des truies pour... pour augmenter la population des sangliers. Mais si ça se trouve, c'est des informations qui sont stupides, tu vois, mais moi, je ne sais pas, j'y connais vraiment rien là-dedans. Mais en tout cas, il y a un vrai problème. Une fois, mon épouse s'est retrouvée devant 7 sangliers. Devant chez nous, elle ne pouvait pas rentrer. 7 sangliers, ça fait peur.
En tout cas, la génération de la chasse, il y a un journal, le soir peut-être, tu vois. Il y a une période spéciale sanglier sur les populations, les études, etc. Je vais essayer de vous le retrouver, je vous le fais passer dessus. Mais je pense que là, il ne raconte pas les conneries.
Oui.
Non, mais peut-être que tu pourrais nous faire un petit compte rendu. Un petit compte. Si tu... Non, mais si tu as des informations intéressantes dans ce journal, tu vois.
Je les puiserai là-dedans.
Voilà, exactement. Exactement. Et pour nous tenir informés de certaines choses qui interpellent les uns et les autres. Ça pourrait être intéressant.
Ça, il faudra mieux connaître le sujet.
Tout à fait.
Ils font plus de grainage.
Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour les chasseurs. Merci. Merci pour les chasseurs qui pourront lutter contre l'envahissement des sangliers dans nos quartiers. Moi, je n'en ai jamais eu dans mon quartier.
J'en ai mangé.
Jamais. Pardon ? Moi, j'en ai jamais vu. Quand vous dites que vous en voyez tous les soirs et tout, je n'ai jamais croisé un sanglier. Pour l'instant, très prudente. Alors, nous allons passer à la quatrième délibération, les tarifs de location de la salle du Dévézou, des salles du Dévézou. Donc, on a voulu reprendre un petit peu les locations qui s'effectuent au sein du Dévézou pour essayer de faire un tableau qui soit récapitulatif de la grande salle, du hall et de la petite salle de réunion. Ce sont les trois endroits que nous louons dans le Dévézou. Et nous avons donc établi ce tableau avec les différentes cautions qui sont demandées pour chaque salle. Donc vous avez lu le tableau. Est-ce que vous avez des interrogations?
Oui. Parce que... Alors bon, on est favorable, on l'a dit déjà, au système de caution. Mais, comme Michel, tu l'avais dit, il implique qu'un état des lieux d'entrée soit fait, signé entre les parties, la commune et le loueur, ainsi qu'un état des lieux de sortie à la fin. Dans notre première question, cela est-il prévu? Deuxième question, vous expliquez, sur la grande salle, particulier Montferrier-Rhin, 1 000 euros la journée, caution, entre parenthèses, sauf mariage. C'est le seul type d'exclusion. C'est une question.
Nous interdisons les mariages dans la salle culturelle.
Que les mariages,
c'est ça.
Nous interdisons les mariages dans la salle culturelle.
Oui,
tout à fait.
C'est la seule exclusion.
Ah ben oui, parce que c'est vraiment quand il y a 100, 150 personnes, 200 personnes, avec beaucoup d'enfants qui montent sur la scène, qui tirent les rideaux, qui cassent tout, enfin bon, voilà, c'est pas possible, quoi. Donc c'est une salle culturelle à la base, donc il n'y aura pas de mariage au sein de la salle culturelle. Voilà. C'est une salle culturelle, elle porte son nom, hein. C'est pas une salle des fêtes, c'est une salle culturelle.
Pour la petite histoire, pour avoir les subventions du département, elle a été déclarée comme salle culturelle et sportive.
Et sportive, en plus. Alors, on voit bien un match.
Il n'y a pas beaucoup de sport dans la salle.
Il y a de la danse. C'est vrai, il y a de la danse.
Il y a de la danse
tous les soirs. Tous les soirs. Oui, c'est vrai. Tous les soirs. Donc, voilà, c'est une certaine forme de sport. Il y a pas de soucis. C'est gratuit pour les associations non profit. Oui. C'est gratuit pour les associations non profit. Tout à fait. Le hall, bien sûr qu'il est ouvert aux associations. Mais les associations Montferrier-Rhin, c'est gratuit.
Non, extérieur.
Extérieur, c'est compris dans entreprise Montferrier-Rhin, entreprise extérieure et association. Et association. C'est comme dans la grande salle. On a marqué particulier Montferrier-Rhin, il faut rajouter aussi entreprise Montferrier-Rhin. Particulier et entreprise Montferrier-Rhin.
Oh,
oui, on va le rajouter. Exactement. Et entreprise Montferrier-Rhin et association, entreprise extérieure et association extérieure. Dans le hall. Dans les petites salles de réunion, ce sont essentiellement des réunions, hein, qui se passent. Donc, il y a très peu de. les Montferriérains, hein, des fois, qui demandent la salle, des fois les groupes aussi, hein, politiques, qui demandent la salle pour faire des réunions, des AG, voilà. Voilà. D'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Ah oui, Jean-Michel est déjà préparé à un état des lieux, mais il le faisait, c'était pas formalisé, etc., mais il le faisait, donc là, on a demandé avec M. DGS de formaliser l'état des lieux, et qu'on puisse, on l'a même vu avec Jean-Michel, peut-être qu'on fera des photos, et comme ça, la photo, elle dira qu'il y a ça, il y a ça, et on pourra pas dire, ah ben non, c'est pas moi, ben non, c'était comme ça quand on était petit. Donc, parce que l'état des lieux en lui-même, c'est-à-dire... Il n'y a rien dans cette salle-là. Si on fournit des tables, on pourra dire les tables sont en l'état, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'on a discuté avec M. Guzman pour pouvoir justement faire des photos et être sûr que l'état des lieux soit respecté à l'arrivée.
Il n'y a rien, mais tu vois ça, par exemple, les boîtiers, là, ça, à refaire, ça coûte cher, en fin de compte, et comme c'est placé là, c'est risqué, quoi.
Sachant que depuis tant d'années, ils n'ont jamais été abîmés.
Si, mais ils ont été changés. Là.
Ils ont déjà été changés.
Ah oui, ils ont déjà été changés.
Non, les petits boîtiers en bas.
Ah si.
Ils ont été changés.
Ah oui, ça je t'assure.
Oui, non, mais Alain dit oui.
Alors on en voit un qui a été rafistolé. D'assurer, ouais. Si. Non, mais c'est normal que ça s'abîme en même temps.
Est-ce qu'il y a des extincteurs pour éteindre? Parce que là, avec les réseaux, oui.
Bien sûr qu'il y a des extincteurs. On fait passer les pompiers, hein, on est obligé. Hein. Les pompiers passent régulièrement, contrôlent les sorties de secours, les extincteurs. Enfin, c'est obligatoire. Hein. Et à chaque fois, ils nous font des petites remontrances. Là, par exemple, cette fermeture là de porte, il va falloir la changer. Maintenant, ça ne passe plus. Il va falloir faire un véritable mur avec une porte. Enfin, bon, voilà, il y a des exigences au fur et à mesure. La réglementation évolue. Hein, donc.
Dans les
EAP. Bien sûr. Donc ça évolue, et surtout les pompiers. Ça évolue, et donc du coup, on fera les choses au fur et à mesure.
Il y a d'ailleurs un cahier d'entrée de charge sur sécurité.
Tout à fait. Donc on va passer au vote quand même. Il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ok. Maintenant, nous allons passer aux questions diverses. Monsieur Bord.
Question orale, j'en ai trois.
Non, mais moi j'en avais 12 et on l'a posé tout à l'heure.
Bon, c'est bien. Demande des agents, attribution de la prime du pouvoir d'achat exceptionnel. Tous les élus de la commune ont reçu dans leur boîte aux lettres le 7 novembre copie d'un courrier adressé à Madame le maire, signé par 31 agents municipaux employés par la commune. Ce courrier demandait l'attribution de la prime de pouvoir d'achat exceptionnel, tel qu'annoncé par le président de la République. Et ce point n'ayant pas été porté à l'ordre du jour du conseil municipal de ce jour, alors qu'il aurait pu l'être, nous vous interrogeons sur le fond et la forme de votre non-prise en compte de cette demande. Pour rappel, l'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public territorial peut instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire. Les bénéficiaires prévus dans le décret du 31 octobre 2023 sont les fonctionnaires et contractuels territoriaux, les assistants maternels et assistants familiaux employés par les collectivités et les établissements publics territoriaux. La prime est soumise à plusieurs conditions cumulatives, avoir été nommé ou recruté par un employeur public avant le 1er janvier 2023, être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023, avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, soit 3 250 euros brut mensuel en moyenne. Nous sommes particulièrement attentifs au dialogue social au sein de la commune et serons vigilants à la suite donnée à cette demande. Pour rappel, cette prime est payable avant juin 2024 et elle s'échelonne de 300 à 800 euros suivant le salaire de l'agent.
Je vous remercie, M. Boff, pour l'attention que vous portez au dialogue social dans notre commune et à l'attention que vous portez à nos agents. Pourquoi je n'ai pas mis cette prime de pouvoir d'achat, je ne l'ai pas mis à l'ordre du jour. Tout simplement parce que je tiens d'abord à vous rappeler que cette prime n'est pas obligatoire. C'est une proposition du chef de l'État, mais elle n'est pas obligatoire. si vous êtes sensible au dialogue social, nous aussi. Et je comprends la difficulté de certains agents en ces périodes économiques difficiles. Et je n'ai jamais fermé la porte à la discussion. Pour rester très factuel, je n'ai pas compris la méthode utilisée par les différents agents de la commune. Une telle méthode, courrier distribué à tous les élus, pourrait laisser sous-entendre que la collectivité a opposé un refus à cette demande. Or, aucune discussion n'a été établie entre un représentant de nos agents, monsieur le DGS, et moi-même. Comme vous le précisez très justement, tous les fonctionnaires et contractuels territoriaux peuvent en bénéficier. Or, sur nos 40 agents, 31 seulement ont été sollicités. Pourquoi ? De la précipitation ? De l'absence de réflexion ? De la méconnaissance ? Aujourd'hui, nous avons demandé par courrier à tous les agents de bien vouloir choisir un représentant et de venir en discuter avec nous. La porte est ouverte, nous attendons leur retour. Cette attribution de prime, si elle est acceptée et votée, devra se voir validée par le CST, Comité Social Territorial, instance rattachée au centre de gestion, qui se réunira au premier trimestre 2024. Et cette prime devra être versée dans tous les cas avant le mois de juin 2024, comme vous l'avez vous-même précisé. Je tiens aussi à signaler à cette assemblée que la métropole et de nombreuses communes ne donneront rien à leurs agents, car cette prime est quasiment confiscatoire pour certains budgets communes. En tous les cas, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite que nous donnerons à ce dossier.
Merci. Deuxième question concerne le travail et le handicap. Aujourd'hui, 12% des travailleurs en situation de handicap sont au chômage contre un peu plus de 7% pour l'ensemble de la population. Même si ce taux de chômage est à la baisse depuis quelques années, il reste encore beaucoup de progrès à faire pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Du lundi 20 au dimanche 26 novembre 2023, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées invitait les entreprises, les associations, les acteurs de la société civile et les travailleurs en situation de handicap à échanger sur l'inclusion et à sensibiliser leur communauté. Au-delà d'une obligation légale, l'inclusion de personnes handicapées en entreprise est une vraie richesse. L'article 52.12.2 du Code du travail pose l'obligation à tout employeur public de plus de 20 agents, ce qui est le cas de notre commune, d'employer des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de l'effectif total de ces agents. La conséquence du non-respect de cette obligation est le versement d'une contribution. La commune de Montferrier emploie 31 000 personnes en CDI, peut-être 32 personnes en CDD. Employez-vous aujourd'hui des personnes en situation de handicap ? Si oui, combien ? Sinon, pourquoi ? Et versez-vous une contribution pour non-respect de cette obligation ? Si oui, quel est son montant ? Merci.
Je vais donner la parole à M. Houssaï qui va vous répondre, mais nous sommes dans les quotas.
Oui, nous avons aujourd'hui 6 agents qui sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés, soit 14% de l'effectif total. Donc nous respectons totalement la législation en vigueur.
Dernier point, recensement des chemins ruraux, décision du conseil municipal est prise en compte dans le montant de la DGF. Alors, c'est en écoutant une émission de radio dernièrement, en octobre, très proche, que j'ai appris cela. Un arrêté publié le jeudi 2 mars 2023 au journal officiel fixe les modalités pratiques du recensement des chemins ruraux auxquels le conseil municipal peut décider de procéder depuis la loi 3.2S, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Les chemins ruraux sont des chemins affectés au public mais non classés par la commune en tant que voie communale. Ces chemins ne sont pas la propriété de particuliers comme les chemins d'exploitation mais font partie du domaine privé de la commune et sont affectés à l'usage public. Ils ne sont pas inaliénables contrairement aux chemins du domaine public des communes. La loi 3.2S s'attaque à cette question. Elle permet en effet aux communes de procéder au recensement des chemins ruraux sur décision du conseil municipal. Une telle décision, précise la loi, suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. Autrement dit, la décision de recenser les chemins ruraux suspend le délai de 30 ans de la prescription acquisitive. Mais attention, suspension ne veut pas dire interruption, le délai recommencera à courir dans un deuxième temps. Le recensement des chemins ruraux doit en effet se faire en deux temps et via deux délibérations. Première délibération, le conseil municipal décide de procéder au recensement. Il faut ensuite mener une enquête publique, puis, par une deuxième délibération, arrêter le tableau définitif recensant les chemins ruraux. Le délai prescriptif sera suspendu entre ces deux délibérations seulement, soit au maximum pour 2 ans. En application de l'article D161-11-4 du Code rural et de la pêche maritime, le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune mentionné à l'article L161-6-1 comprend pour chaque chemin plusieurs indications, numéro, type, longueur, largeur, moyenne, géoréférencement, superficie, etc. Le tableau récapitulatif peut être comploté d'une présentation graphique. Il est transmis au conseil départemental. La loi permet désormais aux communes de confier par convention l'entretien des chemins ruraux à une association, loi 1901. Jusqu'à présent, seule la commune ou une association syndicale pouvait procéder à l'entretien. Celui-ci n'était du reste pas obligatoire. La longueur de voirie classée dans le domaine public d'une commune pèse pour 30% dans le budget total de la dotation globale de fonctionnement. Seuls les chemins expressément classés dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal peuvent être pris en compte. À défaut de ce classement, les chemins ruraux ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du montant attribué aux communes éligibles aux fractions péréquation et cibles de la dotation de solidarité rurale, seule composante de la dotation générale de fonctionnement, la DGF, des communes, pour laquelle le critère de longueur de voirie intervient à des fins de répartition. J'ai mis les liens, disons. Donc, à Montferrier, sous le mandat de M. Frey, ce travail avait été mené par une équipe, dont je crois que Didier faisait partie, enfin, ce que m'a dit Marie en fait, pour recenser ces chemins ruraux. Une carte les localise d'ailleurs dans la salle au premier étage de la mairie. Le conseil municipal, la question, ne pourrait-il pas décider par délibération de procéder au recensement des chemins ruraux, d'autant plus que, bien sûr, il nous aiderait à avoir une DGF supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est une question.
Les chemins ruraux qui sont... Donc le travail a été effectué bien avant... Le dernier mandat de M. Fraisse, et là, il a été effectué il y a de nombreux mandats par M. Lafougère, exactement, qui avait fait un très très gros travail sur les chemins communaux. Le dernier mandat, puisque moi j'étais conseillère municipale, nous avons eu l'opportunité, je ne sais pas si tu faisais partie de cette réunion, nous avons eu l'opportunité de rencontrer, si mes souvenirs sont bons, la commune de Saint-Clément, qui avait un logiciel adapté pour le recensement des chemins communaux. Donc ils sont venus nous présenter et c'était une véritable usine à gaz. Donc les Saint-Clémentois qui nous ont présenté ce logiciel nous ont dit « Est-ce que ça vous intéresse ?» C'était très intéressant parce qu'on pouvait recenser tous ces chemins communaux. Et quand la question est arrivée « Qui veut s'en occuper ?», personne n'a voulu s'en occuper. Donc aujourd'hui, je vous propose, Monsieur Bord, moi, je suis complètement pour qu'on fasse le recensement des chemins communaux dans la commune. Donc, je vous propose de monter un groupe de travail et de travailler sur les chemins communaux sur la commune. Il n'y a aucun problème, parce que c'est un boulot extraordinaire, mais s'il y a des volontaires, il n'y a aucun problème. Donc,
j'ai une remarque quand même, je ne sais pas si ce dont tu parles, là, c'est les chemins ruraux.
Oui, chemins ruraux, pas communaux.
Je ne sais pas s'il y en a vraiment.
Il y en a quelques-uns, surtout dans le massif. Donc si M. Bord, vous voulez monter un groupe de travail là-dessus, il n'y a aucun problème. Nous, au prochain conseil municipal, nous présenterons la délibération du recensement des chemins communaux, si tout le monde est d'accord. Ruraux, excusez-moi. Il est temps que j'aille me coucher. Si vous êtes d'accord, au prochain conseil municipal, on fera une délibération sur les chemins ruraux. Et M. Bord, vous montrez un groupe de travail, et puis tous ceux qui voudront travailler sur les chemins ruraux seront invités à faire partie de ce groupe de travail. Il n'y a pas de souci.
Ils seraient d'accord d'abord.
Michel, c'est à Oui, je suis d'accord.
Voilà, après, vous regardez dans l'équipe municipale qui serait d'accord, et puis il n'y a aucun souci, vous montez. Après, vous n'avez pas besoin d'être 15.
Non. En plus, comme tu l'as dit, le travail a déjà été largement
oui,
fait.
Oui.
Maintenant, il y en a peut-être qui ont disparu depuis. Donc, il faut voir. Hein, mais
l'encre, ce n'était pas de l'encre de Chine.
Oui.
Et elle a disparu.
Ah, d'accord.
Ah, ouais. Regarde-le.
Ah, c'était de l'encre sympathique.
Il faut tout refaire.
Mais il y a le. J'avais pris en photo, moi, donc si ça se trouve, je les ai avant que ça ait disparu.
Ah. Donc, ça serait bien, monsieur Borg, si vous mettiez, vous étiez à trois.
Oui, oui.
Mais il y a Michel Bourrier.
Oui.
Michel Boyer.
Ah, Michel, tu veux y aller?
Oui.
Ah, ben très bien.
Ah,
ouais, parfait, parfait.
Il est bien entouré.
Impeccable. De Michel et Jean-Paul. C'est parfait. Très bien. Ben, au prochain conseil municipal, on votera la délibération. Et après, on avancera. Parfait.
Est-ce que le lapsus ne serait pas révélateur sur les chemins communaux? Est-ce que c'est possible de... Je sais que c'est pas si simple non plus sur les chemins communaux de savoir ceux qui sont réellement sur lesquels on peut passer, ceux qui sont privés, dans des résidences. Parfois, je sais qu'il y a eu quelques doutes là-dessus. Je trouve ça intéressant que ce soit compliqué. Un peu clair.
C'est compliqué parce que dans le massif, par exemple, qui est le lieu de promenade, il y a beaucoup de chemins privés et qui passent sur du communal. Alors le communal, couple privé, puis après c'est du communal. Enfin, Marie-André, justement, avait commencé, sous le mandat de M. Fraisse, à essayer de comprendre tout ce système. Et Marie-André, la ZUT, était opposée à ce que les gens passent sur son chemin privé. Donc, c'est...
Oui, mais quand ils sont publics,
oui,
et qu'ils ont été... fait l'objet d'une privatisation, et parfois, en tout cas, je sais que mon mari s'était intéressé au sujet, avait pris rendez-vous avec Jean-Pierre pour lui signaler au moins deux cas qu'il avait remarqué en courant, en fait, dans le village, notamment en bas du parcours de santé. Il y avait un chemin sur lequel il courait au départ et qui a été fermé par un portail, comme ça, et du coup, il s'était posé la question, il s'était un petit peu renseigné, il avait regardé le cadastre.
Sur le château.
Oui, Jean-Pierre, je crois qu'il y avait aussi...
Il y a le chemin de la fonte du noyer.
Il ne me semble pas que vous ayez pu avancer sur le sujet, qui n'est pas le sujet le plus prioritaire, mais en même temps, je trouve que c'est assez révélateur, parfois même aussi de malentendus, de gens qui avaient l'habitude de passer sur des chemins, qui pensaient qu'ils étaient communaux alors que ce n'était pas. Pendant la campagne, je sais qu'on avait pensé à un moment que le chemin qui est au niveau du lotissement vers la montée des chênes, là, je ne sais pas si vous voyez ce
chemin.
Les grands chênes.
Mais les communales.
Pourquoi il y a marqué propriété privée dessus?
Ah non, mais ça,
non.
On en a parlé, on confond peut-être deux choses, parce qu'il y a un lotissement qui est le lotissement du grand chêne. Dans le règlement du lotissement, il est indiqué qu'on peut traverser le lotissement. C'est une réserve, comme on dit ça. Mais seulement, ils ont mis des portes. Ils ont mis propriété privée, et maintenant, il y a un portail, il y a des petites portes, parce qu'ils ont fait ça petit à petit, tu vois. Ils ont mis des portes, et maintenant, tu as un boîtier pour appeler.
Voilà.
Ce qui fait que tu ne peux plus ouvrir la porte pour traverser.
Alors, quelqu'un me l'avait fait remonter, ça, il me semble, il y a un an. Et moi, j'ai contacté... Non, c'est pas toi. C'est parce que
moi, je...
Oui, non, toi, tu t'es peut-être retrouvé, mais c'est pas toi qui m'avais dit qu'il y avait un problème avec ce portail. J'avais contacté le président de l'ASL et je lui avais rappelé que le chemin qui traverse le parc du Grand Chêne était un chemin public et que les deux portails en haut et en bas devaient rester ouverts. Et la seule chose que j'ai autorisée, c'est qu'il l'a fait et il les ferme la nuit.
Mais ce que...
Et il m'avait dit, il n'y a aucun... Alors après, bien sûr, je passe mon temps à vérifier les portillons et les...
Ouais, mais rien que le panneau propriété privée, moi, quand j'ai couru la dernière fois, je suis passée...
On va faire un rapport.
Je me suis dit, tiens, je vais passer par là. J'ai vu le panneau propriété privée, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Enfin, je trouve que, alors que c'est un passage, on a juste pour promener, pour se courir, voilà, c'est...
C'est n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut mettre... passage accessible aux piétons et aux vélos.
Voilà, c'est ça.
Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec le chemin de la Grand Fond, le chemin de la Fond du Noyer, qui donnait accès sur le boulevard de la Lironde et qui a été privatisé par des gens qui ont construit là.
Oui,
et maintenant, on n'a plus accès, on ne peut plus traverser et aller sur le chemin de la Lironde là.
Et celui
alors qu'on aurait pu faire éventuellement même une voie pour sortir des bouchées là, tu vois. Et
celui du parcours santé, il permettait quand même de sortir du parcours santé pour aller sur la route de Mende. C'était quand même stratégique aussi en termes de déplacement. Et ça, c'est un portail qui a fermé cet accès. Donc, je trouve ça fou quand même aussi. Et du coup, je le dis au passage, peut-être que le lapsus, permettre de régler quelques situations. Et je pense que ce n'est pas les seules, là, c'est celles qu'on voit parce qu'on se balade. Mais
il y en a une autre, moi, qui m'intéresse beaucoup au patrimoine, comme vous le savez. Il y en a une autre qui est que si vous regardez les parcelles de la commune, quand vous êtes sur le plan du bassin,
c'est ça.
Il y a une partie qui est fermée par un petit portail qui donne accès à l'ancienne tour du château médiéval de Montferrier.
C'est
en train de se privatiser. À partir du moment où, pendant une période de 30 ans, tu as montré que tu occupais ce terrain t'appartient. Donc là, je ne sais pas combien d'années, des 30 ans, on va finir par le perdre.
C'est ouvert, là. Non, c'est ouvert, il n'y a pas de problème.
Non, ce n'est pas ouvert, il y a un petit portail. Il y a un petit portail, et comme il y a un petit portail, personne n'y va.
Jusqu'à la maison, jusqu'au fond de l'impasse, on a le droit de passer.
Oui, mais personne ne le sait.
La problématique, c'est que quand tu as un portail, il te dit que c'est bien.
À
côté du boulot.
Il y a un portail, on ne sait pas passer.
Bah oui.
Et donc, en mettant un portail, il signifie bien qu'ils occupent le lieu, et au bout de 30 ans, le lieu leur appartient.
Quand on a fait les visites,
oui, mais il a quand même été ouvert il y a moins de 30 ans. Quand je m'en suis occupé, il y a moins de 30 ans.
Bon, mais tant mieux, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait leur signaler.
Il faut repasser une couche, hein, ça c'est.
Nous, moi, de toute façon, quand on fait les visites du patrimoine, exprès, j'ouvre le portail et je vais jusqu'à la tour pour montrer que c'est bien la commune.
Mais il me semble qu'il y avait un portail. Pourquoi il y a eu un portail? Mais il n'y avait pas une citerne?
Non, peut-être parce qu'il y avait des enfants, peut-être.
Non, une citerne de gazole.
Là, il y avait une citerne. Il
semble qu'il y avait une citerne de gazole, c'est pour ça.
On a installé une citerne pour le boulanger. Une citerne, enfin, un réservoir de gazole.
C'est
ça. Et quand on prend un monde, on prend un monde. Pourquoi y a-t-il un portail dans ce cas-là?
Mais pour moi, j'avais demandé le maintien de l'ouverture. Je vais le recontacter. C'est très bien poussé, hein, le président de la ville.
C'est pas l'inspecteur des impôts.
Non.
Parce qu'il fait peur à tout le monde, cet homme-là. Comme il est inspecteur des impôts dans le lotissement, non, apparemment, il a ce qu'il veut.
Non, c'est pas lui, le président de la SL.
C'était lui qu'on avait vu pour l'enrochement.
Pour l'enrochement, je me souviens très bien. Oui, tout à fait. On était arrivé à descendre un peu l'enrochement, mais on n'avait pas pu. Merci. On va lever le conseil. Pardon. Excusez-moi.
Oui. En fait, je suis régulièrement interrogée dans mon quartier par les Montferriérains sur la position de la mairie sur le rond-point de Girac, sur la position officielle de la mairie sur le rond-point de Girac. Et en fait, je n'ai pas d'élément de langage à leur donner. Et que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de communication officielle sur la position de la mairie à ces égards.
On a fait quand même pas mal de choses, nous, en tant que commune sur le rond-point de Girac, non? On n'a pas fait une motion, on n'a pas fait une motion au conseil municipal.
Et on a fait la motion.
Et une motion au conseil municipal.
Il y a eu un plus tard, on a expliqué une position. Tous les éléments qu'on a fait.
On a fait tout ce qu'il fallait.
Le tribunal,
tout à fait. et arrêter les travaux s'ils doivent être arrêtés. Mais vous pensez que vous allez obtenir gain de cause ?
On n'en sait rien, c'est un dossier très délicat, mais il y a des arguments quand même. Hein. Moi, j'ai relu ce qu'ont dit les avocats, là. Il y a quand même de vrais arguments, parce qu'ils n'ont pas fait de nouvelles déclarations d'utilité publique, alors que une déclaration du... parce qu'ils disent qu'ils sont sur la même emprise, on doit faire une déclaration d'utilité publique si on modifie de façon substantielle le projet. Alors tout est dans le substantiel, en fait. Qu'est-ce que c'est qui est substantiel ? Mais là, ils ont carrément tout changé. Puisque c'était un rond-point, il n'y a plus de rond-point, la gare est déplacée, le parking n'est plus le parking tel qu'il était prévu, il n'est plus au même emplacement, donc ils ont complètement changé le projet, quoi. Donc je pense que le juge doit pouvoir considérer que c'est substantiel.
Et il y a également d'autres problèmes, notamment entre le pont et le rond-point de Girard actuel, de terrain qui n'aurait pas été acheté à des particuliers. Donc il y a ce problème,
en plus,
le problème pour rencontrer... qui est rencontré au pont du Lez, c'est-à-dire que les terrains appartiennent à quelqu'un et n'ont pas été, disons, voilà, il n'y a pas eu de
acquisition. Comme ils ont fait pour le pont.
Oui, c'est pareil. Donc il y aurait ce problème. Ouais. Aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs problèmes.
On va attendre le résultat. Michel, tu voulais poser une question ?
Où en était l'analyse de deux mois sociaux ? Alors,
cette analyse est terminée, enfin, le travail de l'étudiant est terminé, et là maintenant on est en train de condenser un peu, parce qu'on ne va pas vous donner un pavé qui sera complètement indigeste et qui ne vous intéressera pas. Donc chacun a pris une partie, monsieur Bord a pris sa partie, madame Bissonnet a pris une autre, monsieur Mourichon une autre, moi aussi, et ensuite on va tout compiler pour faire un document qui, on a dit, une vingtaine de pages, pas plus.
Peut-être un peu plus. Le but, c'est que bon, l'étudiant avait fait un rapport. Ouais. Bon, comme les rapports d'étudiants, c'est parfois pas très bien écrit. En fait. Vous connaissez ça et certains connaissent ça. Hein. Donc, on a décidé de condenser, de synthétiser un peu ce rapport et afin de le présenter.